The French Connection.
Bonjour tout le monde et bienvenue à l'épisode 282 de la French Connection. Ce soir, on est avec Francis. Salut Francis.
Salut Patrick, salut tout le monde.
Yes, on est avec Steve.
Hi.
Salut, salut. Tu t'en vas? Ça, ok, bye. Jacques.
Bonsoir tout le monde, bon matin, bonjour.
Hey, bonjour, bon matin. Ben, nos shameless plugs, le Hackfest, et, ben, pour ceux qui ne le savaient pas, c'est les 29, 30 et 31 octobre l'année prochaine. Ça va être l'Halloween, les 18 ans. On va pouvoir finalement boire un verre d'alcool au Hackfest. Ça va être la totale. Polar va être le 29 octobre, le jeudi, durant le jour. Le Hackfest commence le soir. IAC devrait être fin mai, début juin, à sortir bientôt. Mais surtout, le Bye Bye 2025, le 27 décembre à 19h du soir. Venez prendre un petit verre avec nous, ou votre verre d'eau, peu importe. Checkez ça tous en famille. On va faire un petit récapitulatif de l'année, les bons coups, les mauvais coups, nos prédictions pour l'année prochaine. Même affaire d'habitude. Hein? C'est pas mal ça. Yes. Est-ce que vous parlez dans des présentations des trucs prochainement, messieurs?
Non, pas mal tranquille. Je pense qu'on
est tranquille fin d'année.
Assez occupé, ouais. Là, que, ouais, ah, là, c'est le temps de retourner au travail.
Oui, tout à fait. Q4, généralement, c'est le bordel. Fait que c'est ça.
Là, quand tu vas jaser à la fin du mois, là, le 27, le bye-bye, non?
Ah, Steve, écoutez pas en tout, mais c'est non. Pas grave, non?
Non, comme ma femme, écoute pas. Mais c'est ça, le 27, là, ça va être une belle opportunité de commander une bonne pizza, là, all dress, plein de viande, saucisse, là, puis s'installer en avant de la TV pour nous regarder faire nos niaiseries.
Oui.
Ouais, ça devrait se trouver un commanditaire qui est prêt à livrer des pizzas aux ananas spéciales à Hackfest. Moi, je trouve ça
excellent. On appelle la police là-dessus. Ça marche pas.
Bye.
Bye-bye. Donc, ben, c'est ça. Fin d'année. Bonne chance à tout le monde pour vos projets finaux et vos évaluations qui ont oublié que vous avez fait 12 mois de travail puis ils vont vous évaluer sur la remise de vos derniers jobs. Ouais. Hey, on commence ça en grand de ton côté, mon Jacques, parce que Microsoft, ils nous patchent des trucs un petit peu beaucoup, là, ce mois-ci, là.
Oui, mais là, au moment qu'on enregistre ça pour ceux qui nous écoutent, c'est mardi le 9 décembre, c'est Patch Tuesday!
Yay! Donc,
là, toutes les alertes, je ne sais pas toi, Steve, mais toutes les alertes rentrent depuis tout à l'heure, là, dans mon RMM, là, toutes les... Les nouvelles vulnérabilités qui popent, fait que là, je suis en train de clairer tout ça. Mais ouais, 3 zero day puis 57 vulnérabilités. Fait que, à mon avis, c'est un peu la moyenne de tous les mois. Fait que ça sort. Fait que, qu'est-ce qu'on fait, les gars? On patch nos systèmes.
Patchez vos systèmes.
Les gars, je l'ai en sens, malade.
En plus de ça, même pour Windows 10, ils ont, pour ceux qui ont le ESU, l'Extended Security Update, la même chose, ils ont sorti une grosse mise à jour là, qui couvre les Zero Day et les 57 vulnérabilités.
Pis,
donc, ça va être le temps de patcher.
Je ne sais pas si je te mets dans le trouble, mais ça ressemblait à quoi les Zero Day? C'était-tu vraiment incroyablement dangereux?
Les Zero Day, ouais, je lisais tout à l'heure, là, 3 Zero Day, dont 2 pour lesquels il y a des exploits. Le Windows Cloud Files Mini Filter Driver, c'est un Elevation of Privilege Vulnerability. Fait qu'il y avait moyen pour un attaquant de prendre le contrôle du système là, avec System Privileges. Et ensuite, l'autre, c'était le GitHub Copilot for JetBrains, Remote Code Execution Vulnerability. Fait qu'en RCE, je ne connais pas c'est quoi JetBrains et tout ça. Là, je ne suis pas programmeur, mais pour ceux qui le sont, ben c'est ça, ils vont comprendre
si
qu'encore là.
Si je ne me trompe pas, JetBrains, c'est un IDE pour développer. Fait que l'injection dans le système de développement.
L'injection de commandes dans Copilot là, qui disent pour command prompt, a cross-prompt injection.
Fun. Donc, ah oui, les AI, on retourne 20 ans en arrière avec des injections SQL au lieu d'être du SQL, ben, c'est du texte.
Ouais.
C'est pas mal ça ce qu'on est aujourd'hui.
Puis l'autre, c'est un RCE dans PowerShell. Fait que c'est tout patché. Ben, en tout cas, non. C'est tout,
patché-les.
Les patchs sont tous disponibles. C'est à vous de patcher. Hein?
C'est fait. Puis là, je me souviens plus à qui qu'on parlait de ça. C'était peut-être justement notre petit souper de podcast, mais Microsoft Patch Tuesday, tous les mois, évidemment. Mais en entreprise, as-tu déjà vu ça, du monde qui patche à tous les mois ou la semaine d'après ou dans le time frame du mois, mettons?
Peut-être pas dans la grosse entreprise avec bien des applications complexes. Moi, perso, chez mes petits clients, les updates se font à peu près tous les jours à midi, me semble, le cycle. Mais honnêtement, c'est comme aujourd'hui, c'est Patch Tuesday. Demain, ouais, les postes vont se faire patcher. Ils vont se faire demander de redémarrer. On parle des postes seulement. Et honnêtement, ça fait
ma question. On fait quoi avec les serveurs applicatifs?
C'est ça. Les postes, ça fait 4 ans que je gère ça comme ça. Hein, fait que le mercredi, la plupart des postes reçoivent toutes les mises à jour. J'ai un client qui m'a demandé de repousser ça au vendredi. Fait que lui, ça va être vendredi. Mais en 4 ans de faire ça, là, honnêtement, j'ai jamais eu de pépin. J'ai pas eu de panique le mercredi ou le jeudi. Le monde dit « Hey, toutes mes applications ne fonctionnent plus. » Les serveurs, typiquement, à part d'un ou deux clients qui préfèrent faire leurs affaires manuellement, qu'ils font à peu près une fois par mois, là, c'est eux autres qui les font eux-mêmes. Mais les serveurs, typiquement, je vais faire ça le dimanche soir, toutes les semaines, à 11h30 le soir. J'ai aucun de mes clients qui a de la production 24/7. Là. Il n'y a personne qui travaille
à 11h30. Non, c'est sûr qu'en 24/7, on s'entend. C'est sûr. C'est peut-être deux environnements en même temps. Là.
Exact. Là. Mais moi, encore là, chez mes clients, en 4 ans, là, ça fonctionne bien. Je rentre lundi matin, puis... tous les serveurs ont été patchés, c'est redémarré, tout est beau, la vie est belle. Fait que perso, moi, mon expérience, j'ai jamais eu ben de problème avec ça. Puis ça vient toujours au point où, tu sais, il y a comme deux philosophies quand ça vient patcher, hein. If it works, don't F with it. Ou bien, on patch le plus rapidement possible pour couvrir les vulnérabilités et les exploits. Moi, je suis plus de cette école-là qu'il faut patcher pour pas se laisser vulnérable.
Ouais. Je peux intervenir là-dessus?
Ben oui. Non.
Je suis un peu entre les deux. Hein. Quand c'est des patchs sur les systèmes d'exploitation, on parle de failles critiques, des 0D, etc., puis avec des exploits, effectivement, il faut 100% d'accord avec Jacques. Ou est-ce que des fois, je me garde une petite réserve, j'ai des PME qui avaient une tendance à installer des mises à jour même automatiquement sur des systèmes. Puis, ça a planté. Ils se sont fait avoir solidement. Puis, à un moment donné, en discutant avec les gens, pourquoi tu fais tes mises à jour automatiquement? Ben, c'est parce que c'est important de faire toutes les mises à jour. Et là, c'est là que j'ai fait, toutes les mises à jour, pas sûr que c'est important de faire toutes les mises à jour. Et dans ce cas-là, on parlait d'équipement plus hardware. On parlait de routeur, d'équipement comme ça. Et quand on regardait dans le système, on disait, OK, la patch qui est déployée aujourd'hui, elle corrige, exemple, une vulnérabilité en lien avec l'utilisation de Open VPN, mettons. Puis là, tu demandes aux clients, utilises-tu VPN ou tes systèmes? Non, Open VPN, c'est tout à off partout, on ne l'utilise pas. Ben, y a-tu un rush de faire une mise à jour, de la faire la mise à jour, ou tu peux attendre une semaine avant de la faire, étant donné que quand tu lis ce qu'elle contient, ça ne te touche pas du tout. Fait que je suis d'accord avec les systèmes d'exploitation. Moi, je ne suis pas un expert là-dedans, mais probablement que les systèmes d'exploitation, il faut les faire rapidement. Pour le hardware, c'est le routeur et tout ça. Ben, j'ai toujours. Prenez donc, souvent, là, c'est quand on a la feuille pour les mises à jour du firmware, là, la note. Tu sais, le README, des fois, là, il ne fait même pas une demi-page. Là. Fait que, d'aller lire ce que ça vient modifier, là, c'est pas une grosse perte de temps, là, parce que ça reste que c'est des systèmes critiques. Puis, quand tu perds tout ton Internet dans ta business parce que tu as fait une mise à jour qui avait au final même pas rapport avec les besoins que tu avais, ben, c'est juste là des fois là, que je dis aux étudiants. Ooh. Sur des systèmes comme ça, prenez donc peut-être un petit pied de recul là, de juste aller lire au moins là, qu'est-ce que ça va corriger.
Ben, tu as l'autre côté, évidemment, l'événement de CrowdStrike qui est arrivé. C'est un produit externe qui s'auto-update. Est-ce que tu es obligé de mettre l'auto-update sur ça? Tu peux dire, attends 1, 2, 3 journées, voir si le reste de la planète crash avant de faire ça. Surtout si c'est un système critique, là, on s'entend. Mais ça s'applique surtout. Évidemment, hardware, c'est encore pire tant que moi. Là, mais souvent, attendez un petit peu. Parce que même les mises à jour Windows et autres, ça crash souvent.
Mais on s'entend que si tu n'as pas la capacité de gérer le changement de tes mises à jour, mais elle est toute automatique. Je veux dire, si tu n'es pas capable de gérer ça, arrange-toi que tes mises à jour se fassent tout seul.
Ça va dépendre aussi, tu sais, je suis d'accord avec toi, Francis, des équipements télécom, là, les routeurs, les switches, les points d'accès sans fil. Typiquement, c'est mieux de faire ça manuellement. Mais encore là, ça va dépendre de la ligne de produit. Moi, je parle toujours PME, là, on s'entend. Mais j'ai des clients qui se sont fait vendre du Meraki. Hey, c'est cool, ça se met tout à jour automatiquement. Hein? Fait que ça t'envoie une note, ça dit, hey, telle date, là, puis des fois, c'est dans une semaine ou deux, l'OS va se mettre à jour, puis le lendemain matin, tout est beau, tout est up. Chez nous, hein, Steve aussi, puis toi aussi, on a tout du Unify. J'ai des clients qui ont du Unify, de Ubiquiti. Encore là, tu reçois un courriel, « Hey, il y a des mises à jour disponibles », une couple d'heures plus tard ou dans le lendemain matin, « Hey, toutes les mises à jour ont été appliquées ». Fait que ça se maintient tout seul. Puis moi, perso, encore là, que ces affaires-là, je n'ai jamais eu de problème. Est-ce qu'un jour, ça pourrait arriver qu'une patch passe croche? Ouais, absolument.
Oui, parce que tu as toujours le risque de demander pendant que la patch se déploie que tu as une coupure. Puis, moi, je regarde toujours je vais aller le release note, là, c'est une obligation pour comprendre qu'est-ce que ça apporte. Puis c'est là que ça va rejoindre ce que Francis disait. C'est-tu pressant de faire cette update-là? C'est-tu nécessaire? On s'entend, là, il y a une nécessité parce que ça améliore le produit toujours à un moment donné, mais j'aime bien savoir qu'est-ce que ça va rajouter et qu'est-ce que ça l'a corrigé. Parce qu'il y a des features que tu ne veux pas avoir des fois, comme là, 26.1 d'iOS sur iPhone, là, vous allez faire le saut, ceux qui n'ont pas fait de la mise à jour encore. J'ai quelqu'un qui me racontait ça cet après-midi, là, c'est un gros, gros changement iOS 26. Puis en passant, iOS 26.2 sort à la fin décembre. Mais c'est pour dire, ça, c'est supposé d'améliorer le produit premièrement, les correctifs de même. Puis tu sais, je lisais un article genre qu'il y en a, tiens, m'a voulu lancer la question à la place, combien de vulnérabilités ont été corrigées dans les produits Microsoft en 2025? Ouh. Avec le déploiement d'aujourd'hui.
Ah. Oh mon Dieu. D'un centaine, c'est pas d'un millier. Là.
1150.
Vas-y. Ah.
C'est nécessaire, mais en même temps, ils ne changent pas le méthode de travail, Christy, puis c'est tout fait tout croche, puis ils pètent ça par en avant, ils disent « Ah, on va faire une patch là, si jamais ça ne marche pas.
Hey, » Tu sais ce que j'ai hâte de voir, moi, c'est que, je me suis dit, c'était-tu Amazon? Je pense qu'Amazon a dit qu'il allait, ou qu'il était déjà, en train, ou Google, whatever, un du GAFAM, 50% de leur code, c'est du AI généré.
Ouais,
t'imagines-tu ce qui s'en vient dans pas long, là, le nombre de vulnérabilités qui
sont des patchs générés IA.
Infinite.
Ah ouais, ça va sûrement être une boucle de même. Là, ça va être
mm-hmm.
niaiseur.
Non, là, ça va être quelque chose. Ça va être quelque chose. Hey, continuons sur le sujet des vulnérabilités. React to Shell, Steve. Ah. Méchant bordel qui est arrivé cette semaine.
Oui, méchant bordel. Puis pour ceux qui n'ont pas suivi un peu cette histoire-là, c'est. Ça avait une odeur de Log4j. Un, pour le timing juste avant Noël. Deux.
Bon point.
Non, mais c'est une évidence, là. Mais c'était du code à l'intérieur, donc des serveurs, c'était des pages web principalement. Et ça touchait quand même beaucoup de types de plateformes. Ça le touche d'ailleurs toujours. Et dans cet ordre d'idée-là, ça prenait beaucoup de persuasion à certains pour dire « Hey, oui, il faut corriger ça tout de suite. » Il y a eu une affaire, me semble que j'ai vu passer le chiffre de 77 000, c'est pas plus, plateformes. Mettons, on va dire un chiffron, 100 quelques mille plateformes qui ont été vues avec ce code qui était vulnérable et qui, depuis une semaine et demie, ça a commencé le patching pour être en mesure de ne pas tomber dans le piège parce que il y a des instances qui sont rattachées. J'ai lu un chiffre de 350 différentes organisations avec une ramification avec le MSS, qui est le ministère de la Sécurité intérieure chinois, et aussi des instances nord-coréennes qui ont été exploitées. Les serveurs qui sont encore vulnérables, donc qui n'ont pas été patchés. Tout ça dans le but, les Nord-Coréens, eux autres, pourraient aller voler les portefeuilles de crypto-monnaie puis de faire de l'extorsion de crypto. Et après ça, ben, les Chinois, eux autres, ils vont aller tenter de regarder qu'est-ce qu'il y a en arrière. S'ils peuvent prendre le contrôle du système, ils vont aller voir en arrière puis possiblement faire du rançon logiciel, mais c'est surtout le vol de propriété intellectuelle qui les intéresse. Fait que tout ça pour dire que... Il n'y a pas eu de panique à la Log4j, une chance, mais tout le potentiel il est là. Autant que c'est pas aussi vaste que Log4j, Log4Shell, que ça a été en 2022. En 2021, pardon.
Pas aussi vaste, mais c'était quand même un CVSS de 10, si je me souviens bien. Hein?
Oui, exactement, Jacques, bon point. Mais c'est là, je te dis, tu sais, ça n'a pas été répandu autant qu'on l'aurait, en tout cas, qu'on anticipait que ça soit comme en 2021. Mais tout ça pour dire, je crois que ce qui a aidé beaucoup, il y a des professionnels là qui étaient attentifs et qui ont pu mettre les correctifs en action très rapidement. Et il y a une bonne quand même sensibilisation qui s'est faite dans la communauté. Fait que moi, je pense que c'est ça qui a contribué à ce que ça n'a pas explosé là, comme situation. Mais c'est pas terminé parce qu'il y en a encore qui sont pas patchés, puis les attaques sont actives.
Non, je pense qu'on va en entendre parler longtemps de celle-là parce que tu as des applications internes aussi qui utilisent ça.
Entre autres, là, sont catégorisés, comme tu dis, de moindre importance.
Oui, oui, oui. Mais dans un hack qu'on réussit à rentrer à l'interne, ce qui est la majorité des brèches, c'est là que ça s'en va.
Yeah.
Ben en fait, j'aimerais donner un coup d'os là-dessus. Ce n'est pas un sponsor, ce n'est pas une pub, mais j'ai vu ça sur LinkedIn, Cyberdéfense.
Cyberdéfense AI?
Ben oui, l'entreprise, la startup québécoise là, du genre de Cloudflare local. Ils ont fait une petite pub. Ils ont réussi à bloquer ça sans toucher à leur application. Là. Par Exactement. Défaut, ils ont réussi à catcher ça.
Oui, parce que Cloudflare, eux autres, ils ont fourré le chien, on peut dire de même. Là.
Oui, tout à fait. Puis c'est pas facile. Puis il y a beaucoup, évidemment, à chaque fois qu'il y a une vulnérabilité, c'est le cas. Là. Il y a beaucoup d'entreprises qui disent « Ah oui, nous autres, on a la patch pour corriger ça. » Ouais, mais tu l'as fait après le coup.
C'est ça.
C'est le avant le coup qui a de l'importance. Puis supposément qu'ils ont réussi. Fait que très, très nice.
Cyber Defense AI.
Yes, allez voir ça, allez parler Michel. Ouais.
Moi, j'allais dire, ouais. Michel Bourg, bravo.
Très cool. Francis, je te lance la balle un peu plus locale. On parle d'un nouveau chef de police. Je ne sais pas ce que tu voulais nous dire à ce sujet-là, mais on t'écoute.
C'est un ancien nouveau chef de police. Grosso modo, on a appris dernièrement que le directeur du service de police de Laval, qui était Pierre Brochet, va quitter ses fonctions. À ma connaissance, il était là depuis 2013. Et il quitte ses fonctions pour s'en aller vice-président à la sécurité corporative chez Desjardins. J'ai eu un moment de faiblesse, j'ai perdu quelques cheveux, j'ai mal au ventre, je ne sais pas trop comment définir mes symptômes, mais c'est toujours la même chose, ça en fait que j'ai de la misère un petit peu avec ça, puis vous savez, moi je suis un ancien policier retraité de la Sûreté du Québec depuis le mois de janvier, et j'ai beaucoup de misère avec les policiers qui font le saut dans la sécurité corporative, la cybersécurité, la sécurité privée, basé sur le fait qu'ils ont occupé des postes de policiers. Et l'exemple que je donne souvent à mes étudiants à l'école, il y a, imaginez-vous, dans Bugs Bunny, là, il y a quelqu'un qui vole un sac là, de la banque avec un signe de pièce dessus, là, puis là, le directeur de la sécurité de la banque, il court après, et le voleur, il traverse le fleuve, et il échappe le sac d'argent, le sac part à gauche, puis le voleur part à droite. Le directeur de la sécurité, il part de quel bord? En général, il part du côté de l'argent. Parce que en sécurité corpo, en sécurité physique, en sécurité en entreprise, on protège des actifs. Donc, on veut aller chercher l'argent. Je prends la même histoire, mais au lieu d'être directeur de la banque qui court après, c'est une police qui court après. Quand il traverse le fleuve, le sac d'argent part à gauche, le voleur part à droite. La police, elle part de quel bord? Elle part après le voleur. Elle part pas après l'argent. Okay? Donc, en général, la police n'a pas un minding de sécurité. On a un minding qui est beaucoup plus d'enquête, beaucoup plus de prédation. On veut arrêter les bandits. T'sais. Fait que c'est un peu ça. Moi, je pense à M. Brochet. En tout cas, moi, j'ai suivi un petit peu sa carrière. Puis ça allait être un excellent policier, un excellent chef de police. Mais quand je vois quelqu'un comme lui aboutir à la sécurité corpo, je me pose toujours la question. Parce que la sécurité corpo chez Desjardins, là,
ben, quand on c'est regarde, ça ma question. Excuse, Francis. C'est quoi la sécurité corpo? Parce que moi, c'est pas, je pense pas que ça veut dire la même chose que toi.
Ben, la sécurité. Je recommence. La sécurité corporative, encore là, ça dépend comment chaque organisation va venir la définir, mais tout dépendamment où est-ce qu'on est, ça va inclure des trucs comme la sécurité physique, ça va inclure le côté des enquêtes, de gérer les enquêtes à l'interne, ça va inclure la protection des renseignements personnels et des données, ça dépend encore là comment la structure interne elle est faite. T'sais, est-ce que le CISO relève du CSO, la sécurité corpo, est-ce que c'est le CSO? Il y a un ménage à faire, mais en général, la sécurité corpo, quand on parle de sécurité corpo au sens large, c'est un peu la sécurité au sens large de l'entreprise. Donc, réponse aux incidents. Encore là, des fois, on va séparer les incidents cyber des incidents vraiment physiques là, dans les bâtisses, etc. Tout ce qui est politique, normes de gouvernance, même ISO 27001, ISO 27000, le NIST, ça relève de la sécurité corpo dans bien des endroits. Okay? Et là, moi, la question, c'est bien, quand je regarde des gens qui n'ont aucun parcours en sécurité physique, aucun parcours en filtrage de sécurité, aucun parcours en cybersécurité. Puis que ces gens-là vont gérer chez Desjardins. Je faisais des petites recherches vite-vite. Là. Ces genres de départements, là, vite-vite, ça a l'air d'employer là, entre 1500 et 2000 employés. Là. Donc, c'est quand même un département qui gère du monde, là. Donc, est-ce que ces gens-là ont cette capacité-là de comprendre ce que les experts lui disent? Je ne le sais pas. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
C'est une bonne question. Puis ça sera peut-être une personne à interviewer, en fait. Parce que moi, de mon côté, la sécurité corporative, CorpSec, c'est la sécurité des employés en TI puis en sécurité, en cybersécurité. Ça ne veut rien dire de tout ce que tu viens de dire. Fait que je ne sais pas si c'est même inclus là-dedans. Là. Parce que CorpSec, c'est la sécurité des laptops, des endpoints, le phishing.
Ben, en général, tu ne veux pas en sécurité physique. En général,
non, pas en physique, on s'entend. Je me doute que ce n'est pas en cyber qui s'en va.
C'est la gestion des dégâts d'eau. C'est encore là, ça dépend vraiment de la structure. Mais en général, même si on est 100% dans le physique, ça reste que ça demande des connaissances qui ne sont pas acquises dans le domaine policier.
Oui, je comprends.
J'ai vu des affaires qui n'ont pas de sens. T'sais, à un moment donné, le directeur de la sécurité de la Société québécoise des traversiers, tu es le directeur de poste de la Sûreté du Québec. Mais tu te dis, mais c'est quoi le rapport avec la sécurité des traversiers? Ça n'a aucun rapport. Et si on rajoute ça en plus dans ton domaine à toi, si tu me dis que vous autres, la sécurité corpo, ça touche beaucoup employés, laptop, etc., là, ben, un client sur salon, il y a encore plus de la police. Là. Puis encore là, l'individu, moi, je pense que comme directeur de police, je l'ai suivi un peu. Lui était à la police de Montréal avant. Je pense que c'est quelqu'un de très solide. C'est quelqu'un qui allait quand même rechercher les troupes. C'est quelqu'un qui n'avait pas la langue dans sa poche, qui supportait les policiers. Mais dans le corpo, là, tu sais.
C'est différent. Oui, c'est sûr. D'accord, d'accord. On verra ce que ça donne avec ça. Ben allons sur un bon coup, puis j'aime bien ce sujet-là parce que c'est un adolescent, mais tu arrives de l'Espagne, mon Jacques, puis ils viennent d'arrêter un jeune qui a volé 64 millions de données. Pas rien quand même.
Ben, il a volé, il a consolidé, si on veut, 64 millions de records. Fait que oui, c'est un jeune de l'Espagne de 19 ans, de Barcelona. Qui a été allé chercher des brèches de 9 compagnies différentes pour faire une base de données, une agrégation de toutes ces données-là qui donnait 64 millions de records. Et de l'information personnelle qu'il a essayé de vendre en ligne dans les forums de l'informateur. C'est là qu'il s'est fait avoir. Mm-hmm. Il y avait des noms complets, des adresses personnelles à la maison. Là, je parle résidentiel, des adresses courrielles, des numéros de téléphone, des numéros de DNI qui est leur identifiant là-bas. Et des IBAN codes pour des comptes de banque. Fait qu'il y avait toutes sortes d'informations assez sensibles et la police a réussi à l'attraper. Bon coup, ça arrive. Hein? Ça arrive que la police fait des bons coups, arrête des gens comme ça. Mais tu sais, on s'entend que les 64 millions de records, là, je veux dire, sont disponibles sur le dark web.
Oui, c'est de la donnée publique, là, ça le fait des revendes.
Il a été arrêté, tant mieux, ça montre un exemple, ça montre qu'il y a un risque de faire ces choses-là.
Ouais. Bravo. Est-ce que 19 ans, c'est considéré adulte ou encore...
J'oserais croire qu'en Espagne, c'est ouais, genre, adulte, pas 18 ans et plus. Ça,
ouais,
18.
Oui, 18.
OK. Ouais, un bon coup. Ouais.
Quand même. Puis, on en a vu au Québec, plus au début des années 2000, se faire arrêter pour des trucs un peu bâtards mm-hmm. de même. Là. Mais souvent, vu que c'est des kids, c'est un peu différent. Fait que je me demandais c'était quoi l'histoire, mais là, c'est début adulte. Fait que ça part mal pour lui, je pense.
Oui, oui.
c'est une vraie prise, là.
Oui, c'est ça.
Malheureusement, je n'ai pas vu d'information comment qu'ils l'ont trouvé, là, puis qu'est-ce qui est arrivé, qu'est-ce qui arrive avec, mais c'est ça. Un bon
ouch. Coup. Ouch. Hey, Steve, on retourne de ton côté pour parler de, faut que je le dise comme il faut, Isuru, I guess, le botnet qui a fait l'attaque de 29,7 terabytes de données.
Oui, monsieur! On est rendu là.
Ouais, on est rendu là.
Non, mais dire, c'est du un terabit, on le saura, là, c'est 1000 gigabits, c'est 1 million de mégabits pour les profanes, mais ils ont été capables à ce moment-là, Cloudflare, parce que c'est leur spécialité, d'arrêter justement cette attaque par rapport à ce qu'il y avait quand même des milliers d'appareils. Cloudflare, donc, il rapporte qu'ils ont mitigé donc 2867 attaques de ce type de botnet-là, d'Isuru, dans les derniers temps. Puis ça veut dire, c'est à la faute de Jacques qui ne parle pas assez fort, qu'il y a plein de systèmes d'IoT, de bebelles connectés en ligne qui ne sont pas patchés. et là, qui se font ramasser, deviennent zombies, font partie d'un botnet. Et c'est comme ça qu'ils sont en mesure d'avoir un levier quand même très important. Là, on parle quand même, c'est gros, le 29,7 terabits. C'est pas une pipe qui est rose de même. Je veux dire, c'est la multiplicité de tout le monde en parallèle qui fait le travail.
Tu es en train de nous dire, Steve, qu'ils ne peuvent pas faire cette attaque-là avec ta tour de cellulaire à côté de chez vous?
Non, parce qu'elle ne marche jamais. Ça, c'est pas grave. Là, 100%, la résolution qu'on a foncée au village mardi dernier, oui. Parti au CRTC, là, puis j'ai pas, ça s'en va. Là. Ça, on va avoir une mise à jour à faire en début d'année 2026 là-dessus. Là. Ah.
Juste t'as une mise à jour en début d'année
2026,
peut-être.
Non.
S'ils parlent du CRTC, on rajoute 10 ans. Mm. Mais non, ça se peut que ça aille plus vite.
Hey, vous me connaissez mal, là. Déjà, là, j'ai parlé au bureau de député, là, puis j'ai fait comprendre là, que c'est aussi important que de parler de d'autres choses là, que son élection. Là. Fait que j'ai dit, là, faut que tu commences à t'occuper de ton comté parce que c'est pressant. T'es peut-être pas le député fédéral qui va avoir une influence à Ottawa pour ça au CRTC, mais il reste toujours bien que vous allez avoir des influences à placer les discussions puis à parler avec les acteurs là-dedans. Alors, on revient à l'attaque de DDoS. Une craigne, là. Et c'est là que ça revient à dire, il faut l'intégrer, ce genre de risque-là, dans nos évaluations de menaces et des risques parce que est-ce qu'on peut faire face et est-ce que nos opérations TI qui font face à l'Internet, on a-tu besoin de mitiger des risques de DDoS? Ça va-tu nous arriver? La réponse est fort probablement oui. Mais est-ce que vous pourriez souscrire donc à un service comme Akamai ou Cloudflare pour mitiger un tel type d'attaque? Ça, ça ne coûte pas trop cher. Je trouve que c'est une bonne prévention. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir continuer à faire offrir les services que vous avez à offrir en ligne, puis ça va, la tempête ne sera pas aussi forte. Tu sais. Mais c'est pas négligeable parce que, autrement dit, quand que l'attaque de déni de service ne fonctionne pas, ça va être le ransomware ou vice-versa. Autrement dit, quand que vous avez quand vous n'avez pas d'amis sur Internet, ben, il y a un moyen technique comme ça qui peut venir vous
faire. Surtout ces infrastructures qui ont de l'importance. On l'a vu sur les bornes de passeport dans les aéroports qui se faisaient déni de service parce qu'ils étaient connectés. Le bug, c'était pas le déni de service, là, c'était le fait qu'ils étaient connectés, mais quand même, s'il y avait eu quelque chose en avant, ça aurait aidé.
Ouais.
Le Cloudflare, c'est une bonne idée pour n'importe qui. Là. Honnêtement, comme tu dis, Steve, ça coûte pas cher que ça. Puis...
Ben
non,
PME, c'est gratuit.
C'est pas juste l'idée de mitiger des DDoS, mais tu sais, je fais beaucoup d'évaluations là, pour des clients. Puis je regarde souvent leur site web, je regarde tout le temps leur site web, et il y en a beaucoup, 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 comme on sait que ça roule du WordPress. Oui. Et une des choses qui m'étonne tout le temps, c'est que les gens laissent la page de login WordPress exposée sur Internet.
Nous autres, on aime ça, là.
Nous autres, on aime
plein
ça.
Plein de
quelque chose comme WP Scan, puis la base de données là, de toutes les adresses, de tous les mots de passe québécois qui ont fuité, tu donnes ça à WP Scan, tu trouves un mot de passe, tu rentres. Fait que là, c'est tout le temps, pourquoi, là? T'sais, exemple, le mien, je t'en ai Cloudflare pour... Bon, mais tu joues DDoS, mais qui va
voir... Ouais, tu peux te faire un tunnel, un VPN, un tout FE,
ben non, mais
quelque chose.
Dans Cloudflare, tu peux dire, « Hey, il n'y a rien que telle adresse IP qui peut accéder à la page de login. »
Ben oui.
C'est moi, j'ai mis l'adresse IP de chez nous, puis l'adresse IP de mon gars technique là, qui m'aide des fois avec ça.
Mm-hmm.
Puis, tu sais, fait que c'est pas disponible, mais écoute, je te dirais que 98% des clients que je trouve des sites WordPress, là, c'est tout exposé, là, la page de login.
Mais combien est-ce qu'il y en a, tu sais, qui mettent un WAF à l'intérieur de la plateforme pour être en mesure de mitiger le risque à un autre niveau, tu sais.
Ouais,
moi, je le fais, puis j'en rencontre pas trop souvent là, des gens qui le mettent, qui intègrent.
Le genre de word fence, tu veux dire?
Ah non, plus fort que ça. Là, c'est vraiment imbriqué là, dans le fabrique, là, si tu veux, de WordPress. Puis,
Dans Cloudflare aussi, tu as des protections aussi. Là,
oui, mais c'est ça, il faut soit familier à un ou l'autre, je veux dire. Mais moi, je trouve que ça vaut à peine. Là, puis, tu sais, quand tu dis que ton site web, il n'a pas trop d'importance, c'est pas grave, là, mais comment je te dirais, donc, c'est pas grand-chose, je trouve. C'est pas de l'économie de bout de chandelle qu'il faut faire rendu là, parce que il va être, quand il y a sa part après ton site web, là, il est trop tard, tu sais.
Là, mais Steve, tu dis que c'était gratuit pour les PME, Steve, ou j'ai manqué?
C'est tout gratis ce que Steve vient de dire, puis Jacques.
Pas le firewall intégré à WordPress, là, mais...
Non, peut-être pas celle-là, mais toutes les plateformes externes le sont.
Cloudflare, il y a des versions gratuites qui font en masse la job.
Puis même...
Je veux juste soulever un point, puis Patrick, tu pourras peut-être t'es plus ces sites web et tout ça, mais combien de fois que je soulève ces choses-là à des clients, et la réponse que j'ai, c'est « Ah, rien que mon site web ». Et cette année, j'ai eu deux cas, dont un de mes clients, juste pour clarifier, je ne m'occupe pas de leur site web, mais qui sont fait, ils sont fait infiltrer leur site web. Et ouais. dans le cas de mon client, ils ont réussi à déposer un logiciel dans le site. Oups. Et j'escarvais, heureusement, que c'était un employé de la compagnie qui l'a remarqué, est allé sur le site web pour je ne sais pas quelle raison. Et là, il y avait un genre de pop-up Cloudflare. Fait que là, il me l'a montré, c'était clairement pas Cloudflare, mais il avait mis le petit logo et tout ça. Fait qu'elle a cliqué dessus, elle m'a dit, ouais, OK, a cliqué dessus, puis son poste s'est fait infecter. Là, j'ai reçu un paquet d'alarmes, lui, ici, on a isolé le poste, la patente, il a fallu qu'on remonte le poste, là, tu sais. Mais, fait que, ouais, mais imaginez quelqu'un qui vous appelle, là, hein, hey, ton institut de site web, il vient de nous infecter, là, ça va nous coûter cher. On regarde pas bien au niveau de réputation, là.
Non, ça fait mal, mais là, c'est un peu pire que ça. Oh, vas-y, mon Steve, qu'est-ce que tu veux dire?
Ben, aujourd'hui, Charles, pour ton bienfait, les compagnies d'assurance sont en mesure d'offrir une assurance qui te protège contre les deepfakes.
Ils protègent pas ton site web, mais deepfake.
Non, mais les sites web, c'est connu, donc mitiger la réputation. Mais c'est pour ça que tu m'as fait flasher, c'est qu'ils viennent de lancer sur le marché cette couverture d'assurance pour être en mesure de t'en sortir si jamais ton brand name, là, je cherche le mot français, et ta marque de commerce.
Ta marque de commerce, c'est ça?
Oui, puis après ça, donc, ta réputation est protégée par une autre couche de souscription.
Ton image de marque.
L'image de marque est protégée, mais tu viens de perdre toutes tes données.
C'est gênant pour l'entreprise.
Non, c'est très gênant. Puis, tu sais, pour ton WordPress, le problème, c'est que ça peut aller plus loin que ça. Il y a deux cas qui me viennent en tête que j'ai vus dans le passé. Là. Un site WordPress, la majorité des entreprises, malheureusement, réutilisent les mêmes mots de passe partout. Fait que si tu brises le WordPress, potentiellement, tu as accès au reste de l'entreprise, au email, blablabla.
C'est ça que
fait ça, on fait ça régulièrement en pentest.
Ouais.
Mais l'autre point que j'ai vu pour les sites de retail qui utilisent WordPress ou des sites PHP surtout, c'est qu'ils s'en vont injecter à la page de paiement un code qui envoie les cartes de crédit sur un autre site en même temps que ça envoie le paiement sur le bon site. Mettons que tu utilises PayPal ou Stripe ou peu importe, ça envoie la requête à PayPal, tu payes, mais ça envoie la requête à pirate.com, puis lui, ben, il va te payer aussi plus tard. Fait que ça, c'est intéressant parce qu'ils sont admins du site, fait qu'ils peuvent rajouter du code. Au lieu d'un malware, comme tu viens de dire, ils vont voler du cash, puis ça devient assez incroyable. Hey, passons la nouvelle qu'on n'arrête pas de dire, je pense, depuis 10 ans, depuis 20 ans, depuis peut-être plus. Mais là, on a une autre preuve. Ça faisait longtemps qu'on avait eu une preuve. Francis, un microphone qui a été trouvé dans une KVM vendue sur je ne sais pas quoi, mais
ça existe là, pas
c'est
ça.
La totale. C'est non.
Fake news!
C'est Steve qui m'a envoyé ça, puis j'étais bien intéressé par ça. C'est pas la première fois qu'on a des attaques sur des KVM. On a eu des KVM dans le passé, encore des KVM chinois, où on avait, par exemple, du code qui roulait sur des KVM qui permettait de retransmettre de l'information sur les touches qui étaient tapées au clavier, des trucs comme ça. Donc, on s'entend qu'un KVM, des fois, ça a l'air un peu nono, là, mais il y a quand même de l'information qui transige par ça. Et ça ici, ben, c'est un KVM qui existe, qu'on peut acheter il y a des modèles qui est de cette marque-là qu'on peut retrouver sur Amazon. C'est la compagnie Cispeed, S-I-P-E-E-D. Et le modèle, c'était le modèle Nano KVM. C'est pas nouveau, parce que la personne qui a trouvé les failles, ça date de février, là. Fait que c'est pas quelque chose de récent. Mais ce qui est récent, c'est que ça a été publié là, par le site web, là, je ne me rappelle jamais le nom, là, Tom's Hardware, qui ont mis ça en ligne. Puis grosso modo, ce qu'on a découvert avec ça, c'est qu'entre autres, il y avait des mots de passe qui étaient prédéfinis, puis le SSH était ouvert par défaut dans le device, OK, avec des mots de passe prédéfinis. L'interface web n'était pas sécurisée. Les clés de chiffrement étaient les mêmes pour tous les appareils. Donc, dès que tu achetais un appareil, c'était la même.
Ce qui est le fun de ces failles-là, c'est du plausible deniability. Ils disent, on n'a pas fait par exprès d'avoir un backdoor, on ne le savait pas.
on va le corriger. Oui. Fait que, puis d'ailleurs, c'est ça qu'on explique. Ça a été long hein, qu'ils corrigent. Ils ont corrigé des vulnérabilités. Puis à mesure qu'ils s'en rajoutaient, ça gossait un petit peu pour corriger. Et bon, on avait même, entre autres, des clés qui étaient hard-codées. Hein, donc, des mots de passe qui sont directement dans le code, là, qui sont implémentés directement dans l'appareil. Et on a découvert, en fouillant le hardware, vraiment le PCB, qu'il y avait un micro caché. Et un micro caché, tu sais, là, je vous parle là, avec un micro. Là. Ça, c'est un gros micro. C'est facile à voir. Mais je vais vous dire une affaire. Un micro caché sur un device, là, si vous n'êtes pas un expert en électronique, là, vous ne le trouverez pas. OK? C'est rendu tellement petit. Ça peut être mélangé avec une résistance, avec un tapon d'affaires. C'est très petit. Il faut avoir des connaissances pour aller vérifier ça. Et quand on a des PCB en multicouches qui sont une par-dessus l'autre, qui sont vissées en plus, puis à l'essai de trouver ça, c'est du domaine de l'impossible. Et ici, ben, on en a trouvé un. Fait qu'on a trouvé un micro qui était directement sur la carte mère et qui était mentionné dans aucune documentation de la compagnie et qui permettait, via le SSH par défaut, d'enregistrer, d'accéder à l'audio, etc. Et bon, ce que la personne qui a fait les recherches est arrivée, a été capable de trouver, entre autres, le Nano KVM en question, tout ce qui était DNS, c'était résolu via des serveurs chinois. Ça se connectait par défaut sur des serveurs de 6 speed pour les mises à jour. Tu sais, on parle de mises à jour automatiques, mais des mises à jour, tu ne contrôles pas vraiment. Donc, il y avait des trucs un peu particuliers par rapport à ça. Et ils ont même trouvé des applications qui n'auraient pas dû se trouver là. Et des applications pour ceux qui font du hacking, ça va lui dire quelque chose. Si je vous parle de TCP DOM, puis je vous parle de Aircrack, qu'est-ce que ça fout sur un KVM?
Ça n'a pas d'affaire.
Est-ce que c'est là parce que je veux avoir la possibilité d'accéder à distance au KVM et à partir de mon accès à distance, rouler ces utilitaires-là pour essayer de faire une espèce de cheval de Troie pour être capable d'intercepter et d'analyser des données dans un réseau ou à l'interne d'une entreprise, etc. Bon, là, tout est ouvert. Donc là, il y a eu des mesures d'atténuation. La compagnie a corrigé certaines affaires. Bon, sur Internet, on trouve des trucs, on nous dit ben, de remplacer le firmware par un firmware, des versions de Linux, entre autres, qu'on peut rouler là-dessus, etc. Mais il en demeure pas moins qu'on est dans le réel. Là. Fait que, comme Steve disait, tu sais, à un moment donné, il faut arrêter de penser.
Attends, il faut arrêter de commander des cochonneries sur Temu, puis sur Amazon, puis ces affaires-là. Puis Temu, en plus, les nouvelles, je pense, ça fait une semaine ou deux, ça disait que la majorité des trucs électroniques ne suit pas les réglementations.
Il y a du plomb, c'est soudé au plomb. Il y a plein d'affaires qui font que c'est mal d'utiliser ces produits-là, mais ça reste que c'est la menace, elle est réelle. Et j'en parlais sur Internet encore aujourd'hui, puis tu sais, tout le temps la même affaire. Oui, mais il peut avoir un produit suédois qui est piraté. Oui, la réponse est oui, mais tu sais, je peux me faire frapper par la foudre, mais ça reste que quand je roule en auto, je m'attache parce qu'en auto, c'est dangereux d'un accident si t'es pas attaché. Même si oui, je peux me faire frapper par la foudre. Même si oui, je peux m'étouffer avec une olive en mangeant. Ça reste qu'à un moment donné, c'est de l'analyse de risque. Et là, ici, ben, faut peut-être commencer à se poser des questions. Tout ce qu'on achète, les cossins pas chers, on en a déjà parlé dans le podcast. Ça fait 2-3 ans qu'on en parle. Tu sais, dans le temps de Noël, là, sur les plateformes chinoises, là, les fameux petits sapins de Noël USB en vendent à 1,50 puis le shipping coûte 2,75. Fait que là, tu dis, ils font leurs argent où? Ben, y a-t-il quelqu'un qui a
checké? Sur le USB?
Y a-t-il quelqu'un qui a checké ce qui roule sur le chip? Ça c'est des petits sapins, tu sais, en question. T'sais, c'est une image que je fais là, on s'entend. Là. Je ne cherchais pas sur Internet des petits sapins qui piratent, là. Mais juste pour vous dire qu'il y a beaucoup d'équipements qu'on utilise, on l'a vécu avec plein d'affaires. Puis malheureusement, ben, il faut, je pense, à un moment donné, comprendre que ce n'est pas de la science-fiction. On est dans le domaine du réel, puis il va falloir, à un moment donné, s'ouvrir les yeux. Moi, si vous êtes prêt à accepter le risque, c'est correct. Mais accepter le risque, ça sous-entend au moins qu'on l'identifie et qu'on le connaît.
Ben oui, exactement. Il faut que tu le saches.
Ben oui.
Combien de fois j'envoie du monde où je l'entends, puis tu l'as vu toi aussi, ils sont là, j'assume le risque, t'assumes, fuck all, tu ne sais même pas ce que tu as entre les mains. Fait que,
désolé. Ben, assumer le risque, ça, c'est une affaire que je vois plein de gens qui ont des cours de gestion de risque.
Bon, oui.
Assumer le risque, c'est être prêt de vivre avec les conséquences de s'il arrive de quoi. Moi, s'il y a un gestionnaire qui dit, moi, je suis prêt à vivre avec le risque, ça veut dire que s'il arrive un événement, tu vas remettre ta job, tu vas t'en aller. Mais on a parlé, Steve, dans la fonction publique. Assumer le risque, c'est quoi? C'est, ben, s'il arrive de quoi, on a une bonne équipe de com en arrière pour venir défendre, puis venir faire semblant, puis venir expliquer des... C'est pas ça de la gestion du risque. En tout cas, pas de manière théorique. Ça, c'est de la gestion de risque en axée sur les purement les communications puis l'image de l'organisation. Mais bon. Un bon papier que Steve m'a envoyé là, de Tom's Hardware là, qui est quand même parlant.
Passons à une ou deux dernières nouvelles. Je ne sais pas, Steve, si tu as la vidéo. Je ne la retrouve pas vite, mais j'aimerais ça qu'on la mette live.
Laquelle? Parce que
la vidéo pour le ban des enfants sur les réseaux sociaux en Australie. Faut parler de ça parce que notre super gouvernement va se laisser tenter puisqu'il en a déjà parlé, le UK aussi. Mais je pense que la vidéo, c'est ce qu'il y a de plus de comprenable parce qu'il l'explique très, très bien, spécifiquement la partie qui explique qu'est-ce que le gouvernement aurait dû faire à la place. Puis c'est très drôle. Si tu l'as, on l'a fait jouer. Mais sinon, je te laisse expliquer un peu le concept là, de tout ça.
Ouais, puis ayant participé aux consultations particulières justement au mois de mai, où ce qui est sorti au mois de mai plutôt, le rapport officiel est sorti pour tout ce qui est la gestion des impacts des écrans chez les jeunes. C'est une commission spéciale là, qui a été mandatée à toutes les parties. Puis moi, j'avais apporté justement parce que là, tu avais toutes sortes de hugs là, qui étaient alentour de la question, mais personne n'avait pensé à la pratico-pratique, l'approche là, justement qui peut s'adonner à aller induire le jeune d'aller consommer l'information puis de rester plugué sur l'appareil. Ça, personne n'avait vu celle-là. Mais là-dessus, donc, pas juste l'essai, mais l'initiative qu'a pris le gouvernement australien, évidemment avec plusieurs plaintes, des situations typiques, bien, ils ont dit, parfait, les médias sociaux, voici la loi, vous allez prévenir les jeunes d'aller en ligne. Ça devient mordicus, ça devient important que ça se fasse au-delà de qu'est-ce que vous avez déjà en place. Fait que, il y a une obligation, il y a des mandats, ils vont avoir des pénalités si jamais ils réussissent pas à faire le minimum d'empêcher le jeune. Mais c'est tout, ça revient tout à l'entour aussi de la question, là. OK, c'est bien beau, ils mettent les modules en place, ils mettent tout ça pour que ça soit pas accessible facilement par n'importe qui. Maintenant, qui va aller faire la vérification? Fait que, tu sais, c'est, ça, c'est l'autre partie parce que, tu sais, ils ont mis une affaire comme c'est bien beau mettre l'épée d'Amoclès au-dessus de la tête. L'amende peut aller potentiellement jusqu'à 50 millions, donc c'est dissuasif, parfait. Mais contrairement ici au Canada et au Québec, eux autres, ils vont fesser dans le tas. Ils ne laisseront pas ça passer. Ça commence avec les plateformes comme Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, Twitter, YouTube, Reddit, Twitch, Kick puis Threads, juste pour débuter. Fait que ces compagnies-là, ils ont été approchés, ces compagnies-là participent à ce qu'ils puissent à ce moment-là bloquer les accès vers les jeunes. Mais après ça, une plateforme comme Snapchat, elle, va prendre le comportement de l'usager pour être capable de faire l'identification. Ah, c'est ça là, tu voulais... OK, ça, ben, je comprends.
Yes.
Ça, c'est ça, c'est Juice Media, ça. Et qui, donc, Snapchat va prendre le comportement de l'usager pour être en mesure de déterminer si c'est un jeune ou pas. C'est un peu fou l'affaire.
Ils vont créer des profils, là.
Ben, nécessairement. Ils vont profiler les usagers, puis c'est comme ça qu'ils vont dire, oh, nous autres, on pense qu'ils ont une classe parce qu'ils ont il y a cette façon d'être et de faire de 16 ans. Vas-y, Pat.
C'est ça, je suis curieux. C'est comment est-ce qu'ils vont techniquement valider puis renforcer ça, là. Je veux dire, les jeunes savent, là, ils vont se créer des faux profils, puis
ah oui.
N'importe quoi. Fait que c'est quoi... C'est quoi la technique qu'ils vont utiliser pour, tu sais, à part avoir une identification numérique ou avant de te créer un compte, il faut que tu ailles à une banque ou un point quelconque pour valider ton identité, puis là, ils te donnent un code, puis là, tu peux créer ton compte. Mais tu sais, comment est-ce que tu contrôles ça, là? C'est bien beau mettre ça sur le dos des TikTok, des
méthodes. Pas rien faire avec ça.
Comment tu fais pour contrôler ça?
Parce qu'on tourne.
Hein?
Non,
je ne
vais pas te couper.
Ben, vas-y, tu avais quelque chose à dire, on va continuer après.
J'allais dire, j'ai eu la discussion sur les ondes de Cube Radio avec l'histoire de Pornhub, tu sais, qu'en Europe, là, je ne me rappelle plus trop où, là, maintenant, là, tu sais, puis là, dans l'espace, qui ont bloqué ça, si la situation des VPN a explosé. C'est où qu'on parle des parents, la responsabilisation des parents. Là, les parents, ils veulent être l'ami de leurs enfants. Moi, j'ai un bébé de 2 ans. Si je ne suis pas son ami, je suis son père. Tu comprends-tu? Je l'aime, mais je suis son père. Et les parents ne veulent pas être les méchants. Oui, mais là, je ne peux pas dire à mon jeune, s'il vous plaît, le gouvernement, bloquez TikTok. Je ne veux pas être la personne qui va dire à mon enfant de se déconnecter. Mais là, à un moment donné, là, je pense qu'il y a des coups de pied dans le cul qui se perdent au niveau, pas juste des enfants, au niveau parental. À un moment donné, tu as des enfants, occupe-t'en.
Les autres enfants,
à 12 ans, quelque chose ne marche pas. Là.
Mm-hmm. Non, c'est ça. Là. Puis la vidéo, on va vous la mettre dans les show notes. Mais c'est ça qu'ils disent dans la vidéo. En plus, il y a une petite partie, là, vous irez voir ça, ça dit le gouvernement n'a pas écouté aucun expert, n'a pas écouté ci, n'a pas écouté ça. Je pense qu'il donne 15 exemples. Mais moi, ce qui me fait le plus capoter, puis on en a déjà parlé, je pense, dans un ancien épisode, c'est au niveau des enfants, c'est juste aller au restaurant puis voir tous les enfants sur les tablettes. Il n'y en a pas un avec un crayon, pas un qui regarde ou qui parle.
Ouais.
On est loin du réseau social, mais ça commence là. Puis là, je ne parle pas de 15 ans, là. Je parle des 2 à 6 ans.
Ça commence avec la famille. Ouais, il va voir les gens. Le papa et le maman, ils sont sur le téléphone au restaurant. On ne peut pas demander à l'enfant d'interagir avec des zombies.
On était quand Claire et moi, on était en Espagne. Là, on était à Marbella, assis à un petit café là, sur le bord de la plage, là, la Méditerranée en avant nous autres. C'était super beau, petit verre de vin. Puis là, il y avait comme une petite aire de jeu pour les enfants. Là, il y avait une petite fille là, qui avait peut-être 4-5 ans. Là. Elle trippait solide, elle était dans le sable. La mère, sa mère, là, elle donnait la main, je ne sais pas quoi, là, mais sa mère ne s'en occupait pas pantoute. Elle était collée sur son téléphone. Claire a pris une photo de ça, là, puis elle voulait en faire comme une image plutôt vague. Là, mais dire,
c'est triste.
C'est la tristesse de notre âge aujourd'hui. Là. Les parents sont pluggés sur leur téléphone, ils ne s'occupent même pas de leur enfant. Ils sont sur la plage, sur le bord de la mer. C'est un moment extraordinaire pour cet enfant-là. Regarde le téléphone.
Oui, puis imagine si le kid avait le téléphone dans les mains en plus.
Ouais. Le
téléphone portable d'aujourd'hui, les réseaux sociaux, là, c'est la cigarette des années 60-70.
Ouais.
Oui, c'est encore pire pour les jeunes, mais les adultes, comme moi, je m'inclus là-dedans, moi aussi, tu sais, le fameux FOMO, là, Fear of Missing Out, là, j'en souffre, moi aussi. Tu sais, j'oublie mon téléphone à la maison, puis je m'en vais au McDonald's chercher quelque chose, puis je vais être à 1,5 km de la maison, pas de téléphone. Mais à un moment donné, tu respires par le nez, puis tu dis, coudonc, Chris, ça chauffe de maladie mentale. Là, Chris, place-toi, Francis, là, ça n'a pas d'allure. Non, mais à un moment donné, tu finis par te parler.
On a tout ce problème-là, t'as raison.
Mais juste de le constater, moi, j'ai l'impression que dans quelques années, dans 10, 15, 20 ans, on va dire, tabarnak, la cigarette, là, c'était rien à côté, là. C'était rien à côté, là.
Ça contrôle des démocraties, les réseaux sociaux. Ça va loin.
J'ai vu un article passer quelque part sur X, je me souviens plus si c'était le Journal de Montréal ou la presse ou quoi. Mais tu sais, depuis septembre, là, ils ont banni les cellulaires dans les écoles. Puis apparemment, les profs rapportent que, hey, oui, ça fait une différence. Les enfants,
les profs, les étudiants, parce que moi, avec ma petite, il fallait qu'elle sélectionne des écoles. Fait que là, on est allé en voir plein. Fait que dans certaines écoles, les kids sont là pour te faire la vente. Mais ce qui est le fun de ça, c'est qu'on l'a fait après que la loi était là. Fait qu'on a posé la question aux kids, aux adultes, à tout le monde. Puis les kids étaient. Puis là, c'était une question. C'était pas un spot là, préparé. Là. On y a posé sur le site pour savoir qu'est-ce qu'ils en pensaient, comment ça marchait pour vrai dans l'école. Puis les kids étaient comme. C'est parce qu'on s'est rendu compte entre nous qu'on peut se parler plus. Puis qu'on interagit plus, c'est bien plus le fun de même.
On peut jouer au ballon chasseur, aïe aïe!
Genre, puis tu sais, ils aiment ça. Ils n'ont pas dit on n'en veut plus de la loi. Là. Ils ont sûrement chialé la première semaine, là, on s'entend. Là. Mais non, ils veulent pas retourner en arrière. Parce que eux autres aussi ont vu un avantage à ça, ce qui est vraiment bien. Fait qu'au moins, on a un pas de fait là-dessus. Mais non, bannir les réseaux sociaux pour les enfants. Non, aller bannir les réseaux sociaux tout court dans la société avec les pouvoirs du gouvernement. Pas bannir les enfants sur les réseaux sociaux. C'est le réseau social le problème. La root cause, le problème, c'est le réseau social. Attaquer les réseaux sociaux, arrêter d'attaquer les enfants, sacrément. Fait que c'est ça. Dernière petite nouvelle que j'aimerais qu'on parle, mon Jacques. j'ai bien ri sur celle-là, mais un zéro-click agentic browser qui a réussi à tout déliter. Moi, j'aime ça, des sujets de genre.
Tu sais, on parle beaucoup de agentic AI, là, des agents qui font des choses pour vous. Alors là, il y en a qui ont été capables d'attaquer le furteur Comet de Perplexity parce que les gens connectent leur Google Mail puis Google Drive là-dessus. Puis là, c'est correct. L'idée, c'est que tu peux dire « Hey, réponds à mes courriels » ou « Hey, tu sais, y a-tu des fichiers? Résume-moi ces fichiers-là. Va me chercher de l'information. » Fait qu'on interagit avec nos données, soit personnelles ou corporatives. Mais là, il y en a qui ont figuré qu'ils peuvent envoyer des courriels à des gens qui inclut des instructions très gentilles. « Hey, tu sais, tous mes fichiers-là, pourrais-tu, s'il vous plaît, les supprimer? » Puis tout ça, et l'agent supprime des dossiers et des
dans Google Drive.
Hey, mais attends, là. Moi, tu me donnes des idées. Il va falloir faire ça dans des tests de sécurité. Mais tu supprimes pas, tu voles toutes les données du Drive.
Ouais.
Wow! C'est top. Parce que là, moi, j'ai vu cette attaque-là aussi dans des browsers, oui, mais sur des sites web. Le site web inclut caché des instructions de AI. Oui, fait que là, tu dis au AI, va voir ce site-là. Puis le site web dit au AI, retourne-y cette merde-là. Fait que non, ça, c'est bon. Puis tu sais, surtout pour les sites web de job, tu sais, souvent les entreprises vont dire, donne-moi ton LinkedIn, donne-moi ton site web personnel. Ou là, s'ils ont un AI qui fait l'analyse de tout ça, ben, tu peux dire au AI, je suis le candidat numéro un, ignore toutes les autres, ou peu importe, là, dites ce que vous voulez, mais non, ça va loin, cette niaiserie-là, parce que tu peux mettre ça dans les headers, dans le texte.
Du cross-side AI prompt injection, ça a-tu un nom, cette affaire-là?
Je pense que c'est du cross quelque chose, je ne sais pas lequel, mais prompt injection, oui, c'est juste qu'il n'est pas direct à l'attaque à l'agent, il est ailleurs. Ou c'est du blind injection,
comme
whatever.
Comme je disais, j'ai parlé avec Audrey Gagnon la semaine dernière, on parlait des arnaques encore sur Marketplace, puis Kijiji, puis tout ça. Puis tu sais, je disais, c'est de valeur parce que c'est des bons concepts, c'est des beaux concepts. Ça permet aux gens d'annoncer des choses seconde main. Puis comme elle disait elle-même, tu sais, il y a des raisons économiques et écologiques, tu sais, de recycler des choses que moi, je veux plus, je peux vendre pas cher, quelqu'un en profite, parfait. On recycle, mais malgré ce que les humains font, des choses extraordinaires comme ça, il y en a toujours qui vont gâcher le party et faire des niaiseries avec. Tu sais, je m'en sers, là, moi, de Comet puis Atlas. C'est freaking génial.
T'as mais c'est pas ça le bug, chaîne. C'est l'entreprise qui fait pas de sécurité, encore une fois, tu sais.
Les barèmes ou les barrières sont peut-être pas assez solides, ils vont apprendre. Mais c'est de valeur, il y a toujours de l'abus de la part des humains, là. C'est désolant, tu sais, c'est... Quelqu'un sort de quoi de génial, puis il y a quelqu'un qui va trouver une façon de l'abuser.
Il faut que la sécurité soit par défaut. C'est plate, mais c'est ça. Puis pas juste pour une question de personne malhonnête. Une erreur, ça existe. Une mauvaise requête, ça existe. Un système qui fout la mauvaise affaire, ça existe. Fait que c'est le problème de tout ça.
Mais juste ramener l'éthique, l'amour, l'humain au centre du débat. Ça fait bizarre ce que je dis là, mais ton affaire automatique, là, tu sais, moi, je me rappelle, quelqu'un, il te souhaitait bonne fête. Puis là, tu disais, c'est pas ma faute. Ben oui, quand ils sortent les quais, là. Non, c'est pas quand ils sortent les quais à Marina. C'est quand ils mettent les quais que c'est ma fête. Ah, c'est vrai, t'as bien raison. Moi, ça me touche bien plus que quand quelqu'un, il y a un pop-up dans Outlook qui dit, c'est la fête à Francis aujourd'hui. Fait que là, il envoie bonne fête, Francis. Mais il se rappelle pas de moi. C'est pas... Puis là, on est rendu plus loin parce que maintenant, dans Outlook, avec tous les copilotes, tous les cossins de ce monde, ben là, je reçois un courriel de Jacques qui me souhaite bonne fête, mais Jacques n'est même pas au courant. Ça s'est fait tout automatiquement.
Puis, j'ai fait ça.
Mais tu sais, on est rendu là. Là, présentement, ça se fait. Et on a même eu des preuves de concept où est-ce qu'avec la voix, je peux programmer des appels. Fait que là, tes parents qui sont en CHSLD, nous autres, on va connaître ça, là. Nous, on va avoir un appel de notre bébé, de notre enfant. Là. On va être en CHSLD en train de se bercer, là. Mais là, on va penser qu'on jase avec notre enfant. Non, notre enfant va envoyer une requête. Ça va être un IA avec la voix de notre enfant qui va nous jaser. Puis, hey, sérieux, là, je sais pas si... Il y avait un film quand j'étais jeune, là, ça s'appelait La Matrice, là. Comment ça ressemblait à ça en tabarnak?
On y va. Hey, ben merci, messieurs.
Moi, je vais finir sur une note positive.
Oui, vas-y.
Je ne peux pas nommer qui encore, là, mais dans les prochains jours, ils veulent l'annoncer. Il m'a dit qu'il y a eu sa certification. Toi, Patrick, tu connais. mais j'ai un autre client qui vient d'être certifié Cybersécurité Canada.
Oh yeah!
Je suis bien content.
Oh yeah!
On va faire un petit peu de bruit avec LinkedIn, là, mais bravo à un autre, j'en accompagne plein d'autres aussi.
Après les prochaines élections, quand on va être rendu souverain de Québec, ils vont être automatiquement convertis à Cybersécurité Québec?
Un peu.
What he said.
Merci.
Oui, en français, s'il vous plaît.
Bon, merci tout le monde, on se revoit dans pas long.
Attends, j'ai.
Ah non, c'est pas. J'ai-tu l'over and out? Ah oui, je l'ai, check bien ça.
We're an out.
Nice.
Excellent.
Bye.
Total plaisir, messieurs.
Yep.
Bye.
French Connection. I'm gonna go to the hospital.
Connection.